Mardi 14 mai, ici Guy Simard, voici les nouvelles. À New York, le contre-interrogatoire de l'ancien avocat de Donald Trump, Michael Cohen, a débuté cet après-midi. Durant des échanges parfois enflammés, l'avocat de la défense l'a fait parler de ses opinions changeantes sur Donald Trump et de l'argent qu'il a empoché en commentant au sujet de l'ancien président. Hier, Michael Cohen a confirmé avoir eu l'approbation de Donald Trump pour effectuer un paiement visant à faire taire une actrice porno, paiement que Trump est accusé de lui avoir remboursé en falsifiant les comptes de son entreprise. Situation inédite, le président républicain de la Chambre des représentants des États-Unis, Mike Johnson, s'est rendu au tribunal pour dénoncer ce qu'il a appelé un simulacre de procès politiquement motivé. Les services ont repris en début d'après-midi aujourd'hui à la Société de l'assurance automobile du Québec après un autre problème informatique intervenu en début de journée. La SAAC a indiqué que le bris de serveur qui a affecté le système informatique n'avait rien à voir avec sa transformation numérique. Un plan d'action a été demandé à l'entreprise IBM pour limiter les répercussions en cas de nouveau bris. La SAAC indique que tous les clients qui avaient un rendez-vous en ont reçu un nouveau. Québec a déposé ses offres à l'ensemble des syndicats qui représentent les éducatrices en CPE. Cela permettra d'amorcer les négociations pour le renouvellement de leur convention collective échue depuis le 31 mars 2023. Québec offre 12,7% d'augmentation sur 5 ans, la même offre que celle qui avait été déposée au Front commun du secteur public en décembre, avant qu'on s'accorde finalement sur 17,4. Stéphanie Vachon, représentante du secteur des CPE à la Fédération de la santé et des services sociaux, estime que ces offres ne sont pas un bon début.
On ne peut pas dire que c'est un bon point de départ. En fait, on comprend la préoccupation patronale du ministère de la Famille puis des regroupements patronaux, la position, en fait, là, d'optimisation de la main-d'œuvre qui est déjà en place. Et puis, pour nous, ça ne fonctionnera pas. On ne pourra pas, en fait, trouver une façon de régler la problématique de pénurie de personnel. De cette façon-là, ça va prendre beaucoup plus.
Le nouveau campement pro-palestinien érigé sur le campus de l'Université du Québec à Montréal dérange la direction de l'institution. À notre antenne, le recteur de l'UQAM, Stéphane Pallage, a expliqué que les demandes des manifestants sont impossibles à satisfaire puisque la direction de l'université n'a absolument aucun pouvoir en ces domaines. Le recours aux tribunaux pour obtenir le démantèlement du campement à l'UQAM n'est pas exclu, selon le recteur, qui donne quelques raisons pour justifier le départ des manifestants.
Je ne sais pas si ça prendra la forme d'une injonction, mais il faudra agir d'une façon ou d'une autre. En comparaison des autres campements, le campement à l'UQAM, il est très, très, très collé sur nos bâtiments. Ça entrave quand même beaucoup notre circulation. Il est aussi complètement masqué, donc il y a des palissades de protection de chantier. Bon, il y a un sentiment quand même désagréable lorsque vous passez à côté. Ça fait château fort.
L'école secondaire Mirabel a été placée en confinement ce midi. Un code noir a été déclenché vers 11h30 à la suite d'informations faisant craindre pour la sécurité des élèves et du personnel. Les policiers sont intervenus rapidement. Le confinement barricadé a été levé vers 13h15. Un suspect a été arrêté, mais la police de Mirabel refuse d'en dire davantage. Aucun incident ni blessure n'a été rapporté. Au sport, l'homme d'affaires Steven Brofman a indiqué à The Gazette qu'il croyait toujours au retour des expos. Il a dit être prêt à s'impliquer pour aider un groupe éventuel à réussir ce tour de force. Il avoue ne plus vouloir être maître du projet. Selon ses dires, il n'a tout simplement plus les moyens financiers d'acheter à lui seul une franchise du baseball majeur au prix d'aujourd'hui. Vous écoutez Cogeco Nouvelles.
Météo.
13 degrés, 40% de risque d'averse cette nuit à Montréal. 40% également demain. Le maximum sera de 21. Gatineau, 11 et 21. 30% de risque cette nuit, 40% demain. Sherbrooke, 11 et 21. Quelques averses, peut-être des orages. Trois-Rivières, 10 et 23. Alternant soleil-nuages demain mercredi. À Québec, cette nuit, 10. Demain, 21. Là aussi, soleil-nuages en alternance.
Cogeco Nouvelles.
Pour rendre votre partenaire encore plus désirable, faites votre choix parmi notre grande sélection de lingerie sexy offerte en taille régulière et en taille plus. De quoi convenir à toutes les silhouettes. Partagez le plaisir. Sensationplus.com. Livraison rapide et discrète.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
Yeah, here come the rooster. Yeah!
voilà, début de la deuxième heure de l'émission de ce soir, en ce mardi. J'espère que vous allez bien. Et la musique ne laisse aucun doute sur l'identité de notre prochain invité, notre ami, notre collaborateur aux amateurs de sport, Antoine Roussel. Salut Antoine.
Salut Mario. Écoute, le monde ne peut pas comprendre dans l'auto ou à la maison. Je suis rentré dans le studio et il y avait une intensité remarquable que j'adore. C'était phénoménal. Donc, on n'a pas le choix de continuer de cette discussion-là, ce que j'ai bien compris, ce qui est phénoménal.
Ben, écoute, c'est drôle parce que, tu sais, pour vrai, là, c'est pas facile être commentateur, analyste, critique, entre guillemets, d'une équipe qui hisse le drapeau blanc pendant une couple d'années. Tu comprends ce que je veux dire?
C'est pas facile. Il y a des situations qu'il faut accepter qu'on n'accepterait pas nécessairement.
Exactement. Et là, à regarder les équipes qui sont actuellement dans les séries, de mon analyse à moi, me dit que c'est le temps de serrer le drapeau blanc de la reconstruction. J'en faisais part à Maxime. Et une des équipes qui m'inspire, et puis ça aussi, je pense que ça t'allume, c'est vraiment la façon dont les Stars de Dallas sont bâtis. Il y a pas, oui, un paquet de joueurs vedettes, mais tu sais, si tu me dis que tes joueurs vedettes, c'est Jamie Benn, puis c'est...
Séguin.
Tu sais, c'est des gars sur leur... Pas leur déclin, mais l'autre versant de la montagne, qui sont encore... Puis il y a pas de mauvais contrat là-dedans. Là. Ils arrivent tous à échéance éventuellement, mais ils ont de très bons jeunes joueurs. Ils ont pas été obligés de finir dans la cave pendant 3 années. Pour bien repêcher. La preuve, tu sais, des Robertson en deuxième ronde, des Rupe Hintz en deuxième ronde.
Stankoven en deuxième ronde.
Wyatt Johnston, tu sais, Marc Bergevin disait qu'il n'y avait rien après le 15. Ben, Wyatt Johnston, 23e au total. Tu sais, il y en a un paquet. Robertson, on a repêché Paling cette année-là. Il y en a des gars après le 15. Puis quand tu regardes ça, puis eux autres, ils ont des trentenaires, mais ils en ont 4-5. Puis ils ont des jeunes. Puis c'est quoi que tu veux? Tu veux-tu des bons joueurs de hockey ou tu veux un certificat de naissance qui te dit ce gars-là, il aura pas 30 ans dans... Tu comprends ce que je veux dire?
Il y en a plus que 4-5 des trentenaires, surtout dans leur équipe. Puis moi, ce que j'aime, en fait, dans cette équipe-là, c'est que il y a aussi... Il y a trois phases de joueurs. Il y a les phases de joueurs de 35 à 36, oui. Mettons Pavelski, Suter. Puis je pense peut-être qu'on peut même glisser Dadonov là-dedans. Après ça, t'as Ben Seguin, qui arrivent un petit peu ensemble dans cette strate-là. Même, on pourrait dire quatre. Après ça, t'as la strate avec Hintz, Robertson, puis maintenant, t'as Stankoven, puis Johnston. Puis ça, ce qui permet de faire ça, c'est le fun. Puis on peut regarder aussi les Rangers, ils sont un peu construits de la même manière. Ils n'ont pas été draftés là, mais ils ont des étages un petit peu dans l'âge de leurs joueurs. Fait que ce qui est pratique avec ça, c'est que des joueurs, t'es un petit peu plus en contrôle de leur salaire. C'est-à-dire que, bon, t'es pas obligé de donner le temps de glace tout le temps au même joueur. C'est-à-dire que, mettons, sur ton premier avantage numérique, si t'as d'autres joueurs qui sont capables de faire le travail, ben, c'est pas le même joueur qui va ramasser tous les points. Et quand ça va être le temps de signer son contrat, ben, il va être signé un petit peu moins gros. Il va avoir un bon contrat, mais il aura pas le meilleur contrat qu'on donne aux jeunes qui arrivent dans la ligue parce qu'on leur a tout donné. Faut se battre un petit peu pour son temps de glace là-bas. Il y a un concept d'équipe, tout le monde participe. Ça, moi, j'aime ça parce que ça fait en sorte que, un, t'es meilleur en équipe, et tu vas plus loin. Et les gars, comme...
C'est plus difficile à affronter, je pense, totalement. Antoine. Parce que regarde, t'as 8 marqueurs de 20 buts, dont 2 de 30 buts. Toronto, ils ont 5 marqueurs de 20 buts et plus. Ils en ont un de 69, un de plus de 40, de Nylander à 40, 3 de 20. C'est-tu plus difficile de jouer contre Toronto ou contre Dallas? Tu sais, je sais pas à toi de répondre, t'as joué contre eux autres. Edmonton, ils ont un marqueur de 50 et plus, Simon, un de 40 et plus, Dreisaitl, un de 30 et plus, puis un de 20, 2 de 20 et plus. Fait qu'ils ont 5 gros marqueurs, c'est bon.
C'est
très, très bon. Je crache pas là-dessus. Mais reste que quand tu as identifié quand tu as deux gros producteurs qui se démarquent du lot, c'est sur eux autres que tu investis toute ta défensive ou toutes tes stratégies. Mais quand t'en as 8, là, sur qui tu l'investis?
Ben, en fait, tu l'investis tranquillement tu rentres des jeunes. Comme là, mettons, il y a même Maverick Bourque qui est même pas rentré dans l'alignement des Stars. Puis, il domine dans la Ligue américaine. Il était très bon dans le junior. À Stankoven, joué l'année dernière dans le junior. C'est fantastique quand tu regardes ça. Il arrive, il y a un impact indéniable. Peter DeBoer mentionnait un peu plus tôt, dans cette semaine ou aujourd'hui que son impact se situe bien plus que par des buts et son implication, parce que il y a eu une période où en fin de saison il n'a pas marqué beaucoup de buts, il a commencé les séries, il n'en a pas marqué beaucoup non plus, et on s'en serait questionné sur un jeune joueur dans l'alignement, mais sa façon de jouer, son intensité a fait en sorte que Peter Dober disait bon, j'ai pas le choix de le garder dans le line-up parce que il produit d'une manière, ou du moins, il amène tout le monde à une autre étape par son intensité puis son énergie contagieuse et ce qu'il amène dans la chambre. Donc, il rajeunit un petit peu tout le monde. Puis, en fait, aussi, dans la construction, faut pas oublier que les Stars, leur système de recrutement est très bon. Parce que là,
Exceptionnel. Sont très chanceux ou sont vraiment bons, Antoine.
Ben, t'es chanceux une fois, t'es pas chanceux cinq fois,
je pense. Je suis d'accord.
Donc,
avec toi.
Les Stars ont compris comment fallait sélectionner. Ils ont compris aussi qu'il fallait être patient. Tu sais, des gars, ils lancent pas tout le temps les jeunes dans la gueule du loup. Ils sont patients, ils évaluent bien la situation, ils les protègent. Puis quand t'as une équipe qui a beaucoup de vétérans, ben t'es capable de faire de la protection comme ça.
Exact. Puis tu sais qu'il y avait un autre excellent joueur dans leur organisation qui malheureusement est au centre de l'actualité depuis 24 heures. C'est Valérie Nichushkin, choix de première ronde, 10e au total en 2013. Il y avait 9 buts en série, même en consommant. C'est triste, là. Mais toi, tu l'as connu.
Pendant 3 saisons avec Nichushkin, c'était un bon jeune joueur. Puis les Stars, on parlait d'être patients. Ils ont été patients avec Valérie. Ils lui ont tout donné. Ils ont laissé le temps de se développer. Puis à un moment donné, quand ça fait 6, 7, 8 ans qu'un joueur est au sein de l'organisation, à un moment donné, ben c'est sûr qu'ils ont abandonné dans son cas. En plus, qu'il était retourné en Russie. Puis lui, au début, n'était pas nécessairement facile à gérer en tant que joueur parce que il voulait beaucoup de. Il pensait que tout lui était dû un petit peu. Puis au sein d'une équipe, c'était un petit peu plus difficile à gérer. Donc pour ça, peut-être qu'il s'est tanné, puis c'est pour ça qu'il est aussi rentré en Russie. Il est revenu, on lui a redonné des opportunités. Il a été racheté par les Stars aussi. Puis c'est là que ça a fonctionné au Colorado. Mais c'est triste, vraiment triste pour lui, pour sa famille, d'avoir cette maladie d'être un toxicomane qui est pas capable de s'arrêter, puis de voir ses coéquipiers qui comme Johnson aujourd'hui qui dit il a pris sa décision, mais des fois il y a des joueurs qui ont des démons aussi.
Il y a 20 ans Johnston, hein?
Au Colorado, son coéquipier qui disait ça. Fait que là en tant que coéquipier, tu sais, tu le sens la frustration parce que t'en as besoin de ce gars-là. Puis là, il laisse tomber l'équipe parce qu'il a pris ses décisions, mais...
Et t'imagines, les gars...
C'est difficile. Je comprends les deux côtés de la médaille, mais vraiment pas évident. Puis très décevant en même temps.
Fait que quand tu regardes ce qui lui arrive, là, je veux dire, puis sans entrer là, dans la confidentialité des joueurs, mais quand tu le côtoyais, c'était-tu clair que ce gars-là, il y avait probablement un problème? Ou pas tant que ça?
Ben, c'est difficile. Je pense que quand t'es jeune... T'es confronté. Ben moi j'ai jamais. Quand on parle, en fait, faut préciser à la maison que c'est pas des stéroïdes là qu'on parle. Là. On parle de substances, de drogues. C'est ça qu'on parle là, quand tu rejoins le programme des joueurs. C'est pas des stéroïdes anabolisants. C'est pas des drogues de dopage. On parle pas de dopage.
C'est des drogues récréatives probablement.
Ah c'est sûr. Puis
cocaïne possiblement.
C'est probablement ça peut aller on spécule là, mais c'est sûr que c'est pas parce qu'il s'est dopé puis que c'est vraiment non. Tout ce qui est récréatif puis ce qui est plus dur aussi, donc c'est décevant. Puis là, comme Johnson il l'a dit, il a pris sa décision, mais ça fait mal. Je trouve que ça fait mal à l'organisation. Puis j'ai aimé comment Jared Bednar a abordé la situation, vraiment un gentleman. Puis j'aurais aimé, quand je vois un coach gérer une situation de cette manière-là, je me dis, maudit que ça doit être le fun de jouer pour ce coach-là.
Ben, il a l'air d'être très apprécié. Puis tu sais, quand j'analysais la composition des noyaux offensifs des équipes en comparant à celui de Dallas et les 8 marqueurs de 20 buts, ça m'impressionne quand même qu'il a réussi à assembler ça avec des gars de toute catégorie d'âge. Tu sais, Colorado, là, ils ont un marqueur de 51, évidemment, McKinnon, un de 42, Rantanen, deux de 20 plus. Nichushkin puis Makar sont morts.
Écoute, hier, j'aurais pensé que McKinnon aurait eu un match monstre. Je suis rentré en studio hier à TVA puis j'ai dit, les gars, à mon avis, il va avoir. S'il n'a pas un gros match, la série est terminée. Puis hier, on l'a vu, mais vraiment d'une manière sporadique. C'était pas à toutes les présences sur la patinoire. Et ça, ben, au final, ben, c'est difficile, hein. Même si lui, il est pas capable de prendre l'équipe sur ses épaules, ben, ça veut tout dire sur le reste et puis la mentalité de l'équipe.
Tu peux t'imaginer la réaction des gars quand ils apprennent une couple d'heures avant le match?
Attends. T'as besoin de ce joueur-là. Tu joues contre une grosse équipe, t'es en série éliminatoire, puis c'est pas juste une fois. C'est la deuxième année que ça arrive. Donc là, c'est compliqué. Tu te dis, voyons, pourquoi ça fonctionne pas? Donc,